Gameblogueuses, Gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le podcast des champions, si vous voyez, en étant premium.
Attends, c'est pas fait.
C'est pas fait quoi?
On est en finale, mais...
Comment ça, on? Déjà, tu...
je parle pour toi, quoi.
Ah,
je parle
pour Rami et moi, pas pour toi.
Aujourd'hui... Je signale qu'il y a toute ma famille qui est à moitié italienne et de...
Et
du Piémont.
Et supporter de Milan. Bref, avec moi aujourd'hui, vous l'aurez compris, il y a Julo. Ça va, Julo?
Ouais, super.
Rami.
Hello, hello.
Et Romain.
Bonjour.
Et nous passons immédiatement au sommaire de l'actualité de la semaine que nous allons traiter tous ensemble. Eh bien, dans les thèmes d'aujourd'hui, nous avons l'annonce incroyable, inattendue, du nouvel Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate. Est-ce que c'est l'Assassin's Creed de trop? Est-ce que c'est pas un calque de l'épisode précédent en époque victorienne? On en parle tout à l'heure avec Julo et Rami qui ont évidemment des choses à dire là-dessus. Et puis... Bah c'est incontournable, on est obligé d'en parler cette semaine, le test est paru, j'y ai passé des jours et des nuits, c'est The Witcher 3 Wild Hunt, la dernière aventure de Geralt de Rive par CD Projekt Red, ça y est, c'est arrivé, ça sort le 19 mai sur PC, PS4, Xbox One, et bah je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est un jeu de ouf, mais avant ça, un petit scratch toujours, tu vois, pour remettre les choses à plat, je vais évidemment me tourner vers l'ami Julo, parce que Julo,
oui, bonjour,
c'est un peu la fête cette semaine.
Il a du win comme toutes les semaines.
Ça win, mais ça me fait encore plus plaisir.
Celui-là, tu l'aimes bien.
Ah, j'aime beaucoup.
Et a priori, t'es pas le seul. Donc, il s'agit de Koji Igarashi, alias Iga, qui s'était pas fait lourder, mais enfin bon.
Il était au placard depuis un moment.
Il était au placard chez Konami. Voilà, donc
on
parle.
La porte,
on parle du papa de Castlevania. En tout cas, du producteur
historique.
Voilà,
on va dire
historique.
Le post Symphony of the Night, c'était lui qui avait pris en charge la licence.
Le emblématique, on va dire, de la saga Castlevania. Voilà, qui a lancé un Kickstarter pour un jeu qui s'appelle Bloodstained Ritual of the Night. En gros, c'est quoi?
C'est un Castlevania
qui ne dit pas son nom. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il lançait un Kickstarter en s'adressant déjà dans une vidéo vraiment drôle.
Que vous pouvez voir si vous êtes premium.
Voilà,
hein, vous la voyez sur le site. Avec le volume, c'est encore mieux.
Tout à fait, ouais. Donc, une vidéo assez marrante tournée dans un château où il explique que voilà, aujourd'hui, les éditeurs lui disent: bah non, mais personne n'en veut de ton Castlevania tradit comme à la bonne époque, etc. Et lui, il dit: non, mais prouvez-leur le contraire. Backez mon jeu. Et j'ai un éditeur qui est d'accord pour. Prendre le relais s'il voit qu'il y a une base de fans qui est là, qui est présente et qui donne de la voix. Et en l'occurrence, ça a marché puisqu'en quelques heures, il y avait un objectif de $500,000.
Un palier quand même qui était annoncé, $850,000. David Hayter pour faire une voix d'un perso.
Voilà, exactement.
Quand même Snake.
Enfin, c'était Snake.
Oui, oui, mais ça sera toujours dans
Snake.
Nos cœurs.
Voilà. Donc, dans tous les cas, en quelques heures, le palier a été atteint, explosé, puisque, voilà, en même pas une nuit en tout cas en France, on est arrivé déjà au million de dollars. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, on est quasiment à 2 millions, alors qu'il reste 28 jours. Vous savez, un Kickstarter, ça dure 30 jours. Donc, le projet va naître, hein, c'est officiel. Donc voilà, c'est le but de la semaine.
Et dans les meilleures conditions, puisqu'il y avait aussi, en plus de David Hayter, la compositrice qui avait œuvré sur Symphony of the Night, à savoir Michiru Yamane, qui va aussi bosser dessus. Il ne manque que en fait l'illustratrice Ayami Kojima, mais il explique sur la page Kickstarter que elle a d'autres projets pour l'instant et machin. Mais
elle n'est pas dispo.
Elle n'est pas dispo. Voilà, elle n'était pas OP à ce moment-là. Donc moi je sais pas, moi ça me met en joie de savoir que il arrive à pas se prendre au sérieux comme ça.
Par contre, il a parlé d'un mode versus, j'ai pas bien compris, mais bon.
D'un mode versus?
Ouais.
Oui, alors
mode je veux dire
speedrun
compétitif. Où tu pourras jouer en coop ou les uns contre les autres.
Ah hein. Bah oui, bah, de toute façon, il y aura tellement de trucs là, il y aura un boss rush, il y aura du speedrun.
Bon, il a eu le bon goût de faire une vidéo marrante.
Elle est extraordinaire.
Voilà.
Non, mais
enfin, extraordinaire.
Reprend...
Non, mais toi, tu exagères toujours tout.
Mais
quoi.
Non, mais
dès qu'il aime un truc,
il reprend
dès qu'il trouve qu'une nana est jolie, il est amoureux.
Il reprend des références directes à Castlevania et il se fait passer pour un vampire aussi. Au
voilà,
passage.
Voilà. Mais ça, c'est cool.
Le moment où il est avec son verre de vin à la main,
ouais,
comme
ouais.
ça, sur
puis
son
qu'il le tège en disant: mais les gars, faut se réveiller, quoi. On va leur prouver le contraire.
Et il a raison. Exactement, il prend la voix de Jean-Pierre Coff quand il le dit.
Exactement, c'est de la merde de toute façon, tout ce qu'on a fait avec Castlevania.
Non, mais c'est bien parce que ça, déjà, ça prouve que, comme pour Yooka-Laylee.
Voilà, c'était le passage où j'ai peur là.
Qui disait, tu vois, les développeurs de Pony qui disaient: bah ouais, mais ça se trouve, il y a du monde que ça va intéresser. Bah voilà, lui aussi il arrive, il dit bah oui.
Et en attendant, on n'a rien vu du jeu à part un, un artwork. Artwork,
ouais. Voilà. Moi, je trouve que ça transpire quand même le foutage de gueule, cette histoire.
Pourquoi?
Parce que... Tu vas parler de ce qui est devenu Kickstarter.
Bah, parce que tu arrives avec ton financement à 90%. Hein. Déjà, ils le font croire à qui, ça? Qu'ils ont leur financement à 90%. Ils ont leur financement total. Et c'est juste pour gagner de la... pour venir gratter de la thune en plus. Tu t'imagines un éditeur de jeu qui dit « Ok, les gars, bon, j'aime bien votre projet, on le finance qu'à 90%. » Le reste, faut que vous passiez par Kickstarter. C'est soit tu finances intégralement.
Attends, il a parlé 90% dans son truc là ou... Parce que moi, ce que j'ai compris du message, c'est plus les éditeurs sont OK pour me suivre, mais ils ont besoin d'une preuve qu'il y a une base. Et là, quelque part, je comprends le message. Imagine-toi, c'est toi qui mets les thunes dans un jeu de Igarashi. C'est risqué quand même. Tu sais que le mec.
C'est du risque, c'est comme ça que ça se passait avant. Maintenant, c'est juste que. C'est juste qu'ils veulent gratter le plus de thunes possible.
Ça rassure les investisseurs. Regarde.
Tu voudrais pas gratter plus de thunes possible?
Et bah, je vais faire un Kickstarter.
Si. Bah voilà, bah fais un Kickstarter.
Non, mais regarde ce qu'a fait Project Cars. Project Cars, ils ont voulu faire le jeu qu'ils voulaient faire, super simu, et que des éditeurs arrêtent de leur dire non, il faut que ce soit un peu plus accessible, machin, etc. Ils ont fait leur truc dans leur coin, ils ont fini par trouver un éditeur en voyant la communauté qui suivait et que les gens étaient.
Ça, c'est après.
Ouais, mais quelque
là,
part,
leur éditeur, il l'avait
ouais,
déjà.
Mais fort de ces expériences-là, les éditeurs peuvent se dire voilà, on peut prouver qu'un jeu peut avoir une base suffisante de. Enfin, faut pas avoir le mal partout, c'est
mais
ça que je veux
dire. Ça va devenir une nouvelle forme de. Ça va devenir une nouvelle
mais
forme de.
Tant mieux s'ils sont rémunérés, si le jeu à la fin il défonce.
Ça va devenir
on
une
va
nouvelle,
être content
une nouvelle
pour
forme.
Lui.
Oui, mais je pense qu'il va y avoir des abus et ça commence. Et je trouve que c'est déjà une première forme d'abus. Un petit studio, un petit indé qui galère.
Ça commence depuis longtemps avec la salade de patates là qui s'est vendue.
Mais ça, c'est encore différent.
Les abus,
le mec il fait une blague, les gens suivent.
Il fait une blague et il est riche, putain.
Non, mais ça, c'est les gens qui ont décidé de le suivre. Là, le problème vient d'un éditeur. Mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est Activision qui dit bah, on a notre Call of Duty, mais on a quand même envie de voir si vous êtes vraiment attaché à la licence.
Non, là ça tournerait au ridicule.
Mais c'est par étapes que ça fonctionne. Et avec ce genre de projet, on y vient tout droit. Soit les mecs de Ukulele, eux,
mais
ils ont
pas
la thune
pour
faire leur jeu, ils le font via Kickstarter uniquement. Là, d'accord, aucun problème.
T'as raison, ça peut être dangereux. Enfin, ça peut être une dérive, on va dire. Mm. Mais au stade où on en est là, avec le jeu d'Igarashi, ça me paraît pas délirant
c'est
de se dire.
C'est une première étape.
Ouais. Bah, ouais. Pour moi, on n'est pas encore dans la dérive là.
Ouais, pas avec Koji.
Comme tu vois, moi j'ai financé le dernier Baphomet. J'ai participé au Kickstarter et même à ce moment-là, je me sentais un peu mal à l'aise parce que tu vois que les Baphomets vendus sur l'iTunes Store, etc., les anciens, étaient toujours en tête, ça se vendait bien. Et ils viennent nous pleurer en disant qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer un Baphomet. Moi, je l'ai fini le Baphomet. Et en termes de budget, ça n'a pas dû être ouf. Et ils ont quand même gratter énormément d'argent sur Kickstarter et même si Charles Cécile dit oui non mais sans Kickstarter on n'aurait pas pu le faire, j'ai dans l'ensemble
oui, parce que
beaucoup
de mal ça t'assure une certaine un certain nombre de précommandes en fait. C'est ça le
mais après c'est aussi le confort du développement hein. Regarde les mecs là qui galèrent avec Formula Fusion qui ont eu du mal à dépasser leur objectif, et leur objectif c'est juste oui, au moins on est sûr qu'on le fera sur PC. C'est pas au moins comme ça, il sera sur toutes les consoles. On sait qu'on va le faire super vite, machin. Non, c'est juste, on sait qu'il sortira. Et les mecs, la plupart, ils le font vraiment sur leur temps libre.
Oui, mais là, ce sont des développeurs qui font ça eux-mêmes. Là, ce qui me gêne dans ce projet-là, c'est que ils viennent nous dire, on a un éditeur qui accepte de financer le jeu.
Si ils constatent qu'il y a un.
Mais non, ils ont dit que le projet serait fait de toute façon. Donc là, pour moi, on dérape. Là, c'est de l'avidité, purement.
Oh là là.
Mais je veux dire, je comprends totalement ton point de vue. Je trouve que là, c'est un petit peu exagéré de parler de dérive dès ce stade, on va dire. Parce que pour moi, Igarashi,
Resident Evil 7, on a quand même. On
non,
a envie
on l'a
de
pas
le
vu.
Faire, mais on a quand même envie
on l'a
de
pas
s'assurer.
Vu encore ça. On l'a
on
pas
a...
vu encore. Le jour où on verra vraiment des triple A.
Ouais, on a quand même envie de s'assurer de la popularité de la série.
Je pense qu'ils auraient peur du ridicule avant de faire un truc pareil.
Oui, moi aussi. Enfin bon. Toujours est-il, moi personnellement, ça me fait plaisir.
Voilà. Rami, mais tu l'as backé toi ou pas? À chaque fois tu dis ça, mais tu back pas. Vas-y, back-le.
Ouais, je sais pas, je me sens. C'est un peu bizarre de backer hein, quand.
Moi j'ai déjà fait, mais à chaque fois c'est des trucs qui foirent.
Imagine,
je te jure, hein, je l'ai fait plusieurs
si
fois
le...
à chaque fois
si
ça
je le backais, imagine.
Julo, avant-gardiste.
Je le back et puis quand il arrive, tu me dis, Plume, tu le testes.
Bah, alors.
Et je vois mon nom dans les crédits à la fin. Tu penses pas que ça sera
un problème?
Ah
bah tu le testeras pas.
Mais je vais dire que c'est pas.
Voilà. Finalement, backer, c'est juste acheter le jeu en avance.
Je vais dire que c'est pas gênant.
Ouais, bon,
je sais pas. Enfin, moi je pense pas que ce soit gênant parce que, comme je vous l'ai dit à l'instant, le seul projet que j'ai jamais backé sur Kickstarter, c'est Baphomet 5. Mm. Et il s'avère que pour JVM à l'époque, c'est moi qui ai fait le test. Mm. Ça m'a pas empêché de le trouver décevant et de le mettre dans le test et de le sanctionner dans la note. Mm. Je pense que sauf si t'es un fanboy aveuglé, moi j'aime beaucoup Baphomet, mais là j'ai été déçu par le jeu, il y a des choses qui m'ont pas plu, et même si j'ai donné mon argent pour le financer, et bah je l'ai dit dans mon test, parce que pour moi c'était une obligation. Je cherchais pas à justifier mon financement, tu vois, le jeu m'a déçu, bah voilà, je l'ai dit.
Non, parce que moi je pense que je vais lâcher, tu sais, 10 000 euros, quoi, je vais claquer mon PLEL pour avoir le meilleur truc, dîner avec lui.
Pour aller lui rouler une pelle et tout.
Ouais, exactement, mais non, mais j'adore Koji Igarashi. Bref.
En plus, je parle de dérive, mais moi je pourrais être. Parce que là, tu vois, t'as un affect particulier avec Castlevania. Ouais. Mais si Sega, admettons, mettait le prochain Yakuza sur Kickstarter, pour m'assurer de pouvoir y jouer, etc., oui, je pense que je participerais au truc.
Un petit Shenmue aussi, hein. Un petit Shenmue.
Ouais, c'est marrant que t'aies pas dit Shenmue. J'attendais Shenmue, j'ai entendu Yakuza.
Mais je pensais à un truc plus réalisable, en fait. Parce que pour moi, Shenmue. Parce que là, tu vois, c'est un gros carton, c'est 2 millions de dollars. Pour moi, 2 millions de dollars sur Shenmue, tu fais rien.
Bah si.
Shenmue, c'est pas un jeu que tu finances avec 2 millions.
Bah,
c'est un jeu que tu finances avec moins, des dizaines de millions de dollars.
Bon, en tout cas, on a compris, Romain, tu n'es pas un adepte de un adorateur de la méthode Kickstarter. En tout
non,
cas,
non, le Kickstarter en lui-même, je dans te dis, ça ne me dérange pas. C'est dans certains cas, et là, je trouve que c'est un peu borderline.
D'accord.
C'est comme Inafune avec son Mighty No. 9, qui lui, quasiment, carrément, fait financer le jeu une fois. Pas assez, bon, on va faire un deuxième Kickstarter par-dessus. Non mais attends, on va où là?
Oh là là, alors là t'es énervé, on va vite passer au fail avant que ça,
dégénère.
Qu'il y ait de la cervelle collée au mur. Et le fail, mon petit Julot. Bah c'est un fail assez bizarre.
Bah c'est Nintendo en fait. Ouais. Alors,
Nintendo nous a fait un truc là.
Bah, cette semaine Nintendo a annoncé en fait ses plans.
Imaginez Mario qui met un coup de pied dans la gueule de Cloud. Ah, bah, c'est un peu ça.
C'est ça. Donc Nintendo a annoncé cette semaine ses plans pour l'E3, hein, comment ils allaient communiquer, etc. Les trucs qui ont été annoncés, notamment un tournoi Nintendo qu'on n'avait pas revu depuis les années 90.
Bah, depuis 90 tout court.
Depuis 90. Donc ça a été l'occasion pour Nintendo en plus de faire une vidéo rigolote avec Reggie et son fils. Qui parle japonais. Non, mais c'était assez marrant. Sauf que voilà, ils annoncent leur digital event. Donc voilà, ça sera une nouvelle fois un digital event, donc une espèce de Nintendo Direct pour remplacer une conférence traditionnelle E3.
Plus le Treehouse.
Voilà, avec les Treehouse sur place, etc. Ça, c'est très bien les Treehouse, franchement.
Ils ont gagné l'E3 de toute façon.
Voilà.
Ah, t'es mauvaise humeur, toi.
C'est un Nintendo, ils ont gagné l'E3. Quand il y a Reggie qui fait des haltères avec deux GameCube, ils ont gagné l'E3.
Oh putain, toi, t'as reçu SMS pas cool ou je sais pas, il y a un truc qui s'est passé ce matin.
Non, là, vous voyez la version, vous voyez la version Unleashed.
On va te remettre la musique de Project Cars.
Ouais,
bon,
bref,
ça va t'apaiser.
Voilà, ça te donnera un élan héroïque.
On en parle, je vois même pas pourquoi on parle d'autre chose.
Donc, alors, ce qu'ils ont gagné aussi, c'est leur guerre, s'il pouvait y en avoir une, contre Square Enix, parce qu'ils annoncent donc leur digital event le 13 mai. Le 16 juin à 9h du matin local, c'est-à-dire à 18h chez nous. Et bah, quelques semaines avant, 3 semaines exactement, le 23 avril, Square Enix avait annoncé sa conférence le 16 juin à 9h du matin et donc 18h chez nous. Donc en gros, voilà, ils ont mis leur conférence par-dessus celle de Square Enix, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas suivre les deux en même temps, à moins de pouvoir couper son cerveau en deux, de pouvoir écouter deux trucs en même temps.
Romain pourra être à la conf Square Enix et regarder le Nintendo Direct.
Ici, je sais pas comment on va faire.
D'un côté, je vois pas trop pourquoi je prendrais la peine de regarder le Nintendo Direct puisqu'ils ont gagné le 3 directement.
Ah, ça fait tellement bien. C'est un truc de fou. En tout cas, la secte va être très contente de tout ce que tu dis. Hein, la secte, on vous salue.
La secte, elle a besoin qu'on lui remette les idées en place de temps en temps, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, faut être un peu sensé.
Ouais, quand tu verras Shenmue 3 sur Wii U, tu diras pas ça.
Ah, mais c'est ce que je dis. Moi,
et ils ont bien financé Bayonetta 2.
Ouais. Wii U, je l'achèterai quand Nintendo me donnera de bonnes raisons de le faire, et pour l'instant ils l'ont pas fait. Désolé, c'est une question de goût purement.
Il y en a quelques-unes,
hein. Et j'ai acheté toutes les consoles Nintendo. Moi j'avais acheté ma N64 en import. La Wii U, c'est la première console de Nintendo que j'achète pas, et je l'achèterai peut-être, mais pour l'instant j'en ai pas envie. Voilà.
D'accord, tu sais quoi, Romain, on va faire
un branché coup de gueule aujourd'hui.
Ouais, on va faire un truc tout de suite là, parce que j'ai l'impression que t'es de mauvaise humeur. On va te remettre de bonne humeur. Enfin, je suis pas sûr en fait, parce que c'est l'heure du chiffre de la semaine. Alors, Romain, le chiffre de la semaine.
Eh bien,
aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Le chiffre de la semaine.
Et c'est toujours pas drôle en fait. C'est toujours...
Non, c'est pas drôle, c'est un peu un fail aussi. Mais là, pour le coup, c'est un fail du côté des joueurs, on va dire. Parce que Sega a dévoilé ses résultats pour sa dernière année fiscale. Et dans la liste, il y a 620 000. Et 620 000 quoi? 620 000 exemplaires de Sonic Boom. Version Wii U et 3DS mélangés, vendus à travers le monde. Alors d'un côté, c'est un fail pour Sega parce que c'est un des plus mauvais résultats pour un épisode de Sonic important, on va dire, de l'histoire.
Il faut savoir que Sonic, en général, ils ont un public avec, chez les jeunes enfants.
Ça continue. Mais
c'est
une mascotte
qui fonctionne encore.
620 000, c'est un échec du côté des joueurs parce qu'il y a quand même 620 000 personnes qui ont été achetées.
Qui ont acheté
ça,
un jeu de merde.
Mais Sonic Boom, c'est une catastrophe.
J'y ai pas joué, moi.
J'y ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos. Le personnage qui passe au travers des décors, des bugs incroyables.
Mais c'est pas la Sonic Team qui l'a fait, c'est une équipe américaine. Hein.
Non, oui, ça a été un jeu développé à l'arrache. Mmh. Et certainement, les développeurs ont certainement pas eu le droit à des conditions de développement idéales. Mmh. Mais en l'état, le jeu est pas bon. Et il est même très mauvais. Et c'est un signe. Hein. Sega l'a pas envoyé à la presse.
C'est vrai.
Personne n'a reçu Sonic Boom. Donc voilà, 620 000 personnes qui achètent ça, c'est
620 000 personnes de trop.
Par contre, et la troisième partie de ce truc-là, c'est que c'est quand même un bon signe pour Sega parce que ça montre que la licence Sonic continue.
Ils peuvent aller sur Kickstarter. Hein,
certainement.
Qui nous dit qu'on peut pas, que c'est pas rentable, c'est... Parce que les patrons, ils vont être emmerdés là. S'ils doivent se justifier en disant, mais oui, nos patrons disent que ça marchera
non,
jamais.
Non, ce qu'ils pourraient faire, c'est un Sonic en 2D sur Kickstarter. Hmm. Genre, on vous promet vraiment, parce qu'ils avaient un peu essayé de le faire il y a quelques années avec Sonic 4. Mais là,
dont le troisième épisode n'est jamais sorti.
Voilà,
je crois.
C'est ça. Ouais. Ils te mettent le troisième épisode sur Kickstarter. On vous promet un vrai retour aux sources, des beaux graphismes en 2D, etc. Mais il faut qu'on montre qu'il y a un public pour ça. Et ce genre de choses, on finira bien par y arriver, je pense.
Oh, bah, il y a des chances, oui, en tout cas. Mais je les vois mal expliquer comment et pourquoi ils seraient obligés de passer par Kickstarter. Enfin bon, c'est encore une autre affaire. Messieurs! Est-ce que vous savez quels sont les 5 articles les plus lus de la semaine?
Moi, je sais que tu vas nous le dire.
J'en connais un.
T'en connais
un, c'est
vrai ?
Je ne sais pas à quel niveau il se place.
Eh bien, écoute, on va commencer par le cinquième, évidemment. Il s'agit de Assassin's Creed Syndicate dévoilé. Le trailer et toutes les infos, on va en parler juste après. Quatrième, c'est l'image du jour. Tiens, c'est bizarre, l'image du jour. Ah bah oui. Quand le trailer de Star Wars 7 fait beaucoup trop d'effets. C'est les images du jour de Poufy. Je ne l'ai pas regardé, celui-là. Il ne me semble pas, mais je crois que sur l'image, il y avait Han Solo et un moins 18, un 18 plus. Donc ça doit être un peu coquin. J'ai peur que ce soit un peu coquin, non ? Ouais, Poufy me hoche la tête et confirme. Numéro 3, Ripley, revivez la présentation de l'annonce d'Assassin's Creed Syndicate. Décidément, Assassin's Creed Syndicate, quoi qu'on en dise, avant même d'en parler, ça a l'air de faire un peu d'effet encore, hein, chez vous, dans les chaumières. Numéro 2, privé de PS4 par ses parents, il détruit sa maison au marteau. Voilà, on rit tous parce que forcément, c'est une anecdote plutôt incroyable.
Non, mais le titre, il est fantastique.
Ouais, et le contenu ? Parce qu'il a vraiment détruit sa maison au marteau.
Ah bah, l'histoire est plutôt triste finalement. C'est qu'une dispute, comme peut y en avoir dans n'importe quelle famille. Mm. En plus, il ne précise pas pourquoi, mais apparemment, c'était un différend entre les deux frères au sujet de l'utilisation de la PS4. Et donc, les parents sévissent. Il confisque la PS4, donc une histoire plutôt classique, sauf que là un des deux fils est passé en mode berserker. il a chopé une batte, dans un premier temps une batte de baseball, il est allé détruire des choses à l'extérieur dans la rue, ensuite il s'est attaqué à la maison à la batte et au marteau, et les parents ont eu tellement peur, ils ont dû l'enfermer dans le garage
et là il a tout pété
il continuait de taper, il tapait la porte et les cadenas pour pouvoir re-rentrer dans la maison. Ils ont dû appeler la police pour venir le calmer. Et le gamin s'est fait arrêter.
Et ça se passait
13 ans,
en Angleterre ?
Non, au Canada.
Au Canada ?
Au Canada, wow. Ouais, 13 ans.
Et ça plaisante pas au Canada. Hein.
Ouais. Il a été condamné, il va se prendre une amende.
Il a mangé des space pancakes, je pense,
ouais,
petit déjeuner.
Peut-être. Mmh. Ouais.
Mais tu te rends compte, ce caca nerveux ultime là, il tapait ta maison à coup de
13 balais en plus.
À coup de marteau et de batte de baseball.
Ça promet pour l'avenir. Et le numéro 1, c'est le test de The Witcher 3 que vous avez lu en masse, comme on dit. Et on va en parler aussi juste après. Mais d'abord, évidemment, puisque nous vous le disions, nous allons nous attaquer au premier thème. Et c'est cette annonce.
Tu aurais pu enchaîner directement sur The Witcher. Ça aurait fait une transition fluide.
Je préfère garder le meilleur pour la fin.
Nous vivons une époque formidable.
Ah,
tu vois, si tu le dis. Mmh. Il y a tellement d'hommes brillants qui imaginent des machines invraisemblables,
ouais,
en rangeant plus d'or que la reine Victoria elle-même.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais aucun de ces bénéfices n'atteint les poches des pauvres diables saignés à blanc.
C'est vrai, nous, c'est nous, hein, dont il parle. Hein, un peu. On est un peu les pauvres diables saignés à blanc. Ouais. Alors, évidemment, ce son que vous entendez, c'est tiré du trailer d'annonce de Assassin's Creed Syndicate, qui a été présenté cette semaine par Ubisoft. Je vais me tourner vers Julo et Rami, qui sont un peu plus férus de la licence que moi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce nouveau trailer d'annonce, à part le grappin, qui est pour moi le truc qui va tout changer, puisque un jeu avec un grappin, c'est toujours bon, Batman, exactement, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Alors, je sais que toi, Julo,
Brock Lesnar,
si je me tourne vers toi, tu vas me dire, c'est Gangs of New York version Assassin's Creed.
Que tu j'aime beaucoup l'univers, l'ambiance, l'atmosphère. Donc effectivement, on retrouve un peu de cette atmosphère de Gangs of New York. Alors c'est évidemment pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, à Londres. Londres qui était le centre du monde de cette époque, avec effectivement la révolution industrielle qui a changé énormément de choses. Le côté gang de quartier, les changements que ça implique, sur le style vestimentaire, l'ambiance, et puis aussi les armes, hein. On a vu que l'un des deux héros, parce qu'il y a deux héros, dont une femme, peut utiliser des flingues, mais aussi des couteaux,
des bazookas,
des points américains, le point américain qu'on avait vu d'ailleurs en image teaser avant l'annonce. Je commence avec ce que j'ai trouvé de positif, hein, donc
Je me tournerai vers Rami pour le négatif à la limite.
Non, le fait qu'ils aient intégré un personnage féminin, même si ça clairement
ouais, parce que techniquement c'était trop
techniquement
difficile.
C'est très compliqué.
C'était bravo,
non, alors c'est vrai que en même temps Ubi, ils essayent de se rattraper entre guillemets, c'est à dire que suite à cette grosse polémique, de l'absence de femmes pour des raisons techniques dans Assassin's Unity, ça avait été
alors
dit avec un peu de maladresse.
Tellement de rien dire du tout.
Voilà, alors qu'en fait, en plus, ils auraient pu se défendre tout simplement en disant que dans la série, il y a déjà eu des personnages féminins et qu'il y en aura à l'avenir. Voilà, ça suffisait. Bon, bref, on se demande si c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, il y a un personnage féminin en binôme avec donc un personnage masculin, soit un frère et une sœur. C'est cool, c'est cool. Graphiquement, ça a l'air tout aussi beau que Unity, ouais. Voilà.
Mais justement, est-ce que c'est pas un peu skin de Unity quand on regarde?
Oui, alors c'est ce que disait Rami, effectivement.
Complètement, ouais, tellement. Enfin, déjà, ce qui est bien, c'est que Ubisoft a pas bullshité en faisant une presse.
Alors ça, j'aimerais qu'on mette l'accent là-dessus quand même. C'est vrai qu'on en a pas parlé dans notre débat, Rami.
Dis-nous, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont pas bullshité?
Déjà, on voit vraiment le jeu tel qu'il est, et pas, enfin, on imagine qu'il n'y aura pas de downgrade. Enfin, s'il y a un downgrade là, je pense que j'arrête
la licence. Oui, parce qu'on est au même niveau que Unity, en fait.
Ah, ouais, on est clairement au même niveau, mais après, moi, je vois vraiment un skin avec les mêmes animations que dans Unity. J'ai l'impression de revoir les mêmes bugs, en fait.
Ouais, les mêmes façons de se comporter, ouais. des personnages qui t'accompagnent. Il y a un moment de la démo où il se fait suivre par une personne qui l'a délivré, qui a un flingue en main et qui l'assiste en fait dans ses bastons, mais qui l'assiste mal, quoi. Enfin, je veux dire,
ça fait
jeu vidéo, comme on dit, tu vois, un personnage dont tu comprends pas bien les attitudes, la façon dont elle réagit à la baston, etc. Tu vois aussi des comportements de personnages un peu buggés,
qui n'ont pas changé, qui même les animations sont, enfin, c'est, tu vois, okay,
et puis l'autre truc, c'est qu'on retrouve vraiment, bon, voilà, on nous explique, voilà, telle gang contrôle ce quartier, donc tu vas devoir reprendre possession de ce quartier en battant le chef du gang et machin, on a l'impression il y a une
redondance
de redondance qui existe depuis longtemps, mais qui là, peut-être on attendait peut-être un peu plus, je sais pas.
Le plus, c'est pas les bastons qui ont l'air d'avoir été un peu
variés. Oui, apparemment on nous dit que le système de combat a été amélioré.
Trop rapide, le système de combat. Enfin, j'ai l'impression de.
Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas de changement majeur.
Non, clairement.
Unity,
pas.
Par exemple, ils avaient effectivement changé le système de combat, mais ça se voyait pas trop. Mais c'était sensible et intéressant au final dans le jeu. Mais je veux dire, c'est pas ça qu'attendent les gens, je pense.
Ah, non, clairement,
comme
pas,
toi,
non.
Et moi.
Ce qui est marrant, c'est que je me souviens bien de ce que tu disais, Julo, au sujet du dernier Assassin en date.
Ouais.
Et j'ai l'impression. Parce que t'as fait un revirement, j'ai l'impression que le dernier Assassin, ça a été le la claque, enfin le réveil, et claque, et là maintenant t'es vraiment passé de l'autre côté du côté de la barrière.
Non, alors il y a un autre truc qu'il faut dire aussi, c'est que le jeu avait quand même bien fuité avant l'annonce, et que quelque part ça participe à l'excitation de l'annonce d'un assassin, c'est quand tu découvres quelle époque c'est, même s'il y a eu des rumeurs, etc. Mais quand t'as pas eu d'images et tout, là on avait eu des images déjà il y a quelques mois, on savait que c'était à Londres, on avait vu à quoi ça ressemblait et tout ça, donc ça enlève un peu de l'excitation. Donc, moi en fait mon problème c'est que j'ai eu du mal à m'exciter sur ce jeu. Avec Unity c'était beaucoup plus facile parce que c'était quand même la France, la Révolution française.
Et tu veux dire que ça a été correctement teasé
d'une part, et d'autre part c'était le premier épisode exclusivement Next Gen, donc c'était super beau. Il y avait un gap, si tu veux, là, entre Unity et ça.
Ah, mais le gap, on sent.
Le côté skin dont parlait Rami, c'est vrai qu'il est, il se ressent d'autant plus que, voilà, on est sur un même type de graphisme, et avec des innovations qu'on cherche un petit peu, quoi.
Bah, voilà, ils ont ajouté les calèches, c'est les courses pour se
faire. Oui, mais le problème, c'est que ça a pas l'air terrible, les calèches. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Je me dis que c'est du pré-alpha. On est qu'en mai, le jeu sort en octobre. Soyons.
Voilà, tiens, on la voit, la face de calèche, je sais pas.
Le mec, il crasse quand même 20 passants. Enfin, le credo des assassins,
En plus, dans Assassin's Creed
2. On est dans le mode Fast and Furious.
Dans Assassin's Creed 2, il y avait déjà des calèches.
Oui,
c'est pas non plus une nouveauté de malade, quoi.
Soyez une cigarette.
Donc, oui, des calèches, moi j'en ai déjà vu. Hein. Ça se comportait d'ailleurs à peu près comme ça.
T'aurais déjà conduit, toi, des calèches, non?
Bien sûr, j'ai fait des courses de calèches.
Je me rappelle très bien, tu nous avais dit ça.
J'ai fait des courses de canard dans Shenmue 2 aussi.
J'allais sortir. Tu montes les mots de la bouche.
Voilà, et est-ce que t'es là? On est en train de le découvrir en image aussi, mais ça, on nous a pas montré grand chose, juste le début là. C'est
les petits bastons de gang.
Les bastons de gang.
Ah, ça, c'est bien ça.
Voilà, mais en même temps, quand tu vois là ce qui se passe, tu vois un peu ce qu'on voit d'habitude en fait. Voilà, je sais pas.
Ça change pas.
Moi, ce que j'attends d'un assassin maintenant, c'est qu'il continue sur la voie de l'infiltration qu'ils avaient instauré dans Unity.
Bah là, pour ce qu'on voit depuis quelques secondes, c'est pas trop infiltration.
Mais justement, Romain, tu parlais de ça, tu dis je revire, etc. Non, moi je reste sur mes positions. Ils avaient ouvert une bonne brèche avec Unity. Avec la planification des missions, etc. Ce qu'on n'a pas du tout vu là, mais ça ne veut pas dire que ça n'existera pas dans le jeu. Ça va me manquer si ça n'y est pas. Et puis, il y a la méta-histoire aussi. Voilà, on a rien vu, mais il y a eu des déclarations quand même il n'y a pas si longtemps que ça, de la part des scénaristes d'Assassin qui disaient voilà, on a écrit une nouvelle Bible, on va redévelopper l'histoire de Junon, des dieux d'avant, etc. Là, on le voit pas. On l'a pas vu du tout. On n'a pas parlé.
Mais tant mieux. Faut peut-être pas qu'on en sache trop non plus maintenant.
Voilà, donc peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises d'ici le 3. Et puis d'ici, est-ce qu'on y joue et qu'on découvre finalement peut-être un bon assassin. Parce que pour moi, ce qui fait un bon assassin, c'est effectivement bon, les systèmes, les nouveautés, etc. Non, c'est qu'il y a un mélange de passé et de présent, d'histoire et de méta-histoire et tout ça. Donc on verra.
Je pense qu'ils pourront difficilement faire pire que ce qu'ils avaient fait avec Unity au niveau de l'histoire, qui était simple, c'était juste.
Mais moi, ce qui.
Romeo et Juliette.
Moi, tu vois, c'est là que je suis pas d'accord. Moi, Unity, je trouve que l'histoire, elle est beaucoup mieux que celle de Black Flag que tout le monde a encensé.
Ouais, mais là, quand tu vois la Révolution
Black Flag,
française,
il a été encensé.
De la Révolution française, que tu vois un peu le début, tu vois vite fait le milieu et.
Mais oui, c'est décevant de voir qu'il n'est pas impliqué dans la Révolution française et qui vit sa vie à côté de la Révolution française comme toile de fond, effectivement. Mais au moins l'histoire a été maîtrisée.
C'est vrai que la méta-histoire se passe.
Pour moi, c'était un progrès par rapport à Black Flag, quoi, au niveau de l'histoire. Mais bon. Voilà.
Vous n'êtes pas excité, quoi, j'ai l'impression.
Bah, en fait, on n'est pas excité. Voilà.
Alors que nos lecteurs, ils ont été très curieux pour ça pourtant.
Non.
Vous voyez, c'était plébiscité.
Non, bah écoute, on a fait un sondage.
Ah.
Dans lequel on posait la question à nos lecteurs. Donc il y a eu un peu plus de 400 votes quand même. Donc c'est assez. Ça démontre quand même un petit peu une tendance, en tout cas chez nos lecteurs à nous. En gros, un très très faible pourcentage, 4 ou 5, disaient qu'ils avaient été convaincus, qu'ils trouvaient que ça avait l'air super. Un pourcentage plus important, une vingtaine.
Attendre
de voir, et tous les autres parlaient soit de absolument pas convaincu, soit de j'en ai ras le bol. Voilà, donc 20 et 40%.
Ouais, c'est peut-être le moment de laisser souffler la licence.
Voilà, c'était l'objet de notre débat avec Rami, et c'est vrai que Moi je vais le tester, je vais peut-être être content d'y jouer, etc. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on arrête et il faut qu'on renouvelle les idées. Il y a peut-être des choses à oublier, des choses à recréer avec cette série qui a un fondement tellement génial, quoi. De mélanger l'histoire avec voilà, la fiction, l'histoire avec un grand H, avec en créant des fictions, voilà, dans le passé et tout ça. Enfin, il y a des trucs tellement kiffants, il y a des trucs que j'aimais tellement avec la saga Assassin jusqu'au troisième épisode en fait, et qu'on retrouve plus du tout, et c'est bien dommage, quoi. Voilà. Donc le grappin, voilà, on vient de le voir à l'image, c'est cool. Les calèches, pourquoi pas, et tout ça, mais les trains, apparemment, on pourra conduire des trains aussi. Les bastons de rue et tout ça, mais je sais pas, il manque un véritable élément nouveau, quoi.
Bon, voilà. On jugera sur pièce, j'ai envie de dire.
On jugera sur pièce en octobre prochain, et puis on en verra un petit peu
ça
plus à l'E3. En tout cas, il n'y a pas de mode multi, hein. Ça, c'est confirmé. Hein. Ouais. Parce qu'ils en ont pas parlé. Ouais. Il y avait une fuite avant qui disait pas de multi. Ils en ont pas parlé pendant la présentation, donc c'est ça sent mauvais. Ils ont dit que c'était des raisons techniques.
Les fameuses raisons techniques.
Bah non, mais on se concentre sur le solo pour créer un truc génial. Voilà, c'est
et donc, je vous demandais, il y a une date fixe déjà qui a été donnée.
23 octobre.
Ouais. Donc, ça sera 10 jours après Rainbow Six.
Alors, hein. Attention, c'est PS3 et Xbox One. La version PC sortira plus
PS4,
tard.
PS4.
J'ai dit PS3. Ouais. Ouais. J'y arrive pas. Okay. PS4 et Xbox One. Et la version PC plus tard.
D'accord.
Voilà. Donc,
plus tard, mais à l'automne quand même. Donc, ça
je sais pas, mais
trop
vous
après.
Qui voyez ça d'un peu plus loin, vous en avez pensé quoi de cette présentation?
J'ai revu Unity, moi, juste à Londres, c'est tout. C'est, pour moi, c'était une skin, ce que j'ai vu. Mais voilà, après, je suis plus. Maintenant, je la suis de très loin, hein, la licence. Donc, je vais pas. Enfin, je suis pas plus emballé que ça, mais je trouve ça très joli. Moi, ça va sûrement être passionnant au niveau de l'histoire. J'aime beaucoup.
Je sais pas, ça.
J'aime
ça,
beaucoup
ça,
l'époque
victorienne
à Londres. De la reine Victoria. J'aime beaucoup l'époque de Jack l'Éventreur, etc.
Ouais, bah ça, c'est un truc. Moi, tu sais, j'adore cette série. J'en avais parlé dans un hors-jeu, la Penny Dreadful, avec les mythes londoniens.
Mais il y en a une autre qui est plus réaliste, qui se passe vraiment à l'époque de Jack l'Éventreur, qui s'appelle Reaper Street, que je vous conseille énormément. On ressent toute cette ambiance, quoi. Mais est-ce que ça sera suffisant pour me dire tiens, non, je veux y jouer maintenant?
Mais faut laisser le bénéfice du doute. Voilà. On n'a pas été excité. Mais pourquoi est-ce qu'on serait pas convaincu si jamais il y a vraiment des bonnes idées, des choses surtout qu'on n'a pas encore vues et qui seront développées à l'E3 et dans la version finale qu'on découvrira en octobre.
Moi, ce qui m'embête, c'est que bon, j'ai à cause de diverses raisons comme le manque de temps ou d'autres choses, j'ai jamais pu me mettre sur la série Assassin, alors que c'est pourtant une série qui m'attire en termes de thématique, d'esthétique, etc. C'est une série à laquelle j'ai envie de jouer. Mais depuis l'année dernière, maintenant, je pense vraiment avoir raté le coche, en fait. Quand je regarde le jeu tourner, je vois que les défauts, en fait. Je trouve que ça fait vieillot, je vois la caméra qui se coince dans les coins, etc. Les animations qui sont un peu archaïques, etc. Et pour le coup, ça me retire un peu de mon envie de jouer.
D'y jouer.
Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir raté ma chance de
mettre
dedans. Mais
pourtant, depuis Black Flag, ça n'a plus aucune, t'as plus aucune bonne raison d'avoir joué au précédent, en fait.
Ouais, voilà. Bah, c'est parce ce qu'on que... dit aussi, hein. T'as pas besoin de recommencer au début.
Bah non, parce que la méta-histoire a été finie avec le 3. Ok, à la fin du 3, on fait mourir.
Bon, c'est bien, tu spoil.
Non,
cool,
mais
merci,
on s'en fout. Enfin, je veux dire,
j'ai pas fini, moi, merde.
Bon, enfin, bref, j'ai pas dit qui, voilà.
Ouais. Tu vois, on fait mourir. Black Flag, l'ambiance, l'univers m'attirait pas particulièrement, mais Unity, la Révolution française et tout, je trouvais ça super classe. Des jeux en monde ouvert comme ça qui se passent en France,
mais
on en a pas.
Tu peux y jouer à Unity.
On en a pas des masses.
Je pense que tu vas kiffer.
Ouais, mais quand je te voyais y jouer, enfin. Ça faisait trop vieillot, quoi. Ça, j'avais
tu
l'impression
m'as pas vu jouer, j'ai
là,
joué.
Tu y as joué un peu, tu avais joué un peu quand on était encore à Montreuil, ça ou Rami. Enfin, j'ai vu des gens jouer dans les bureaux et ça m'a un peu coupé mon envie. Et j'ai l'impression que là, on se dirige un peu vers le même type de jeu. Et je me demande s'ils vont pas tirer sur la corde jusqu'à ce que les gens en aient marre et ensuite ils vont laisser la série de côté.
Est-ce qu'ils vont tuer leur licence,
années,
ouais, c'est la question.
Un comeback avec un truc vraiment fait à neuf. Et ils essayeront de jouer sur la nostalgie des gens pour la licence.
Non, faut
pour
qu'il,
les
faut,
faire
faut et je pense qu'il faut qu'ils osent, parce que là ils sont partis dans une dans une machine lancée à pleine bourre qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Donc t'as tel studio qui va faire celui-là, ensuite t'as tel studio qui va faire celui-là. Ils prévoient les trucs sur 5 ans, 6 ans, peut-être même plus, j'en sais rien. Et tout part en branle. Et puis on maîtrise. Il n'y a pas un moment où on dit stop, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment changer dans cette série? Est-ce qu'on peut pas la rebooter d'une certaine... Enfin, c'est un reboot qu'il faut en fait.
Il y a peut-être une fatigue, même une fatigue créative.
Mais c'est-à-dire qu'ils se posent même plus la question. Ils sont dans une mécanique et ils avancent.
Ça sert pas
c'est
le
presque
jeu,
une fuite en avant, quoi.
Ça sert pas le jeu, et je pense qu'il va y avoir une lassitude du côté des créateurs, parce que être mis face à ce rythme de travail en permanence, bah tes idées elles ont pas le temps de venir ou de se rafraîchir,
c'est compliqué,
etc.
Quand t'as peu de temps pour renouveler des mécaniques de gameplay. Ouais.
Voilà. Et les joueurs.
C'est parce que c'est vraiment, pour moi, c'est les idées fondatrices qu'il faut chambouler. Il faut garder les trucs que les gens adorent, les développer autrement. Pas hésiter à couper dans le gras pour changer certaines choses. Faut vraiment la rebooter, la série.
Ouais, parce que ce sont des jeux d'une telle envergure, t'imagines. C'est comme si tu sortais un nouveau GTA avec une nouvelle ville, une nouvelle histoire et tout, tous les ans. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça deviendrait clairement mauvais, quoi.
Après, je sais pas s'ils peuvent se permettre de rebooter quand même.
Non, mais quand je dis rebooter, ce que je veux dire, c'est rebooter les idées, quoi. Garder des trucs vraiment fondateurs. Et puis insister sur les trucs que tout le monde réclame. Les gens, ils réclament de l'infiltration, de la méta-histoire, etc. Et bah leur en donner et trouver une nouvelle façon, un nouveau moteur de déplacement du personnage, je sais pas, enfin trouver des trucs, quoi.
Le problème, c'est que la méta-histoire ça colle pas avec l'état d'esprit d'Ubisoft. Dès maintenant, ils veulent faire des héros un peu lambda auxquels tout le monde peut s'identifier sans vraiment avoir de gros background ou des choses comme ça. Et la méta-histoire, ça fait finalement travailler les personnages et leurs histoires, etc. Donc ça colle pas trop. Il y a un peu un décalage entre ce que les joueurs, les gros fans d'Assassin's Creed réclament et la stratégie d'ensemble d'Ubisoft vis-à-vis de ses héros. Enfin, je pense.
D'accord. Bah écoute, je pense que tu as tué le game. On va finir.
Désolé.
On va finir
comme Nintendo, toi.
Tu gagnes
le 3. Toi, t'as gagné le podcast.
Tu gagnes le podcast.
Tu vas être Nintendo le podcast. Super cher, mais
non, t'inquiète pas. Bon, on a fini avec Assassin's Creed. On attendra de juger sur pièce si il vaut ou pas la peine.
Son besoin de cacahuètes.
Je pense, moi, de mon côté, que ça va aller.
En tout cas, ça va bien se passer. Je pense que je peux être que agréablement surpris par la suite, en fait.
Moi, j'aurais préféré qu'Ubisoft fasse une pause avec Assassin's Creed et mettre toutes ses équipes sur The Division.
Ah oui. C'est déjà un peu le cas.
C'est pas une question de nombre. Il devait être bien 400 sur The Division. Là, c'est pas ça qui. C'est pas le fait de couper un assassin qui aurait. Je pense plutôt pour créer des licences, quoi. Et Ubi, ils sont forts pour ça. Parce que mine de rien, tout le monde les critique et tout ça. Et puis là, j'ai l'air de les critiquer aussi. Mais enfin, ils sont capables de sortir des trucs fabuleux et surtout d'être créatifs. Moi, l'un des qualificatifs quand je pense à Ubisoft, c'est quand même ça, c'est la créativité. Ils arrivent quand même à sortir des concepts, à faire ressurgir des trucs, à inventer des choses bien, à les faire joliment, voilà. Et ils peuvent faire des trucs super.
Ouais, mais ils laissent pas le temps. Moi, je pense que c'est pour Assassin's Creed, ils laissent pas le temps à leurs créateurs. C'est très dommage.
Alors que ce dont nous allons parler juste maintenant, petite ambiance, eh ben là, ils ont pris le temps. Je vous le dis tout de suite, il s'agit de CD Projekt Red qui a pondu un The Witcher 3 Wild Hunt absolument stratosphérique, pour reprendre les termes utilisés habituellement par notre petit Julien. Et je sais pas par où commencer en fait pour parler de The Witcher 3.
C'est bien.
Je vais vous. Écoute, je crois que le test le dit, c'est écrit fantastique avec un indispensable game blog. Je dois t'avouer que.
En même temps,
il
moi, depuis
tutoyé,
que.
Hein, le culte.
Mais justement, mais depuis qu'on en parle, je sens que t'es freiné par un truc sans arriver véritablement à le définir.
Je sais pas.
C'est bien ce que je dis.
Il y a quelque chose.
Il y a un truc qui manque peut-être à ton
des
bonheur.
C'est des petites imperfections en fait. Hein. Tu sais, c'est tout bête. Hein. Des fois, il y a des petites choses qui te freinent un petit peu. Mais je pense pas non plus être injuste en ayant.
Pour commencer avec un truc simple, parce que ça me concerne et je sais que ça en concerne d'autres aussi. On n'a pas tous joué à Witcher et Witcher 2.
Ouais.
Et moi, ce que j'ai compris de ton test, c'est que non seulement quand t'avais pas joué au 1 ou au 2, c'était chaud, mais limite, si t'avais pas lu les bouquins, c'était quand même vachement moins bien. Et ça, tu sais, tu inquiètes les gens quand tu dis ça. Tu les fais fuir.
Ils sont peut-être partis déjà. Je pense que en fait, c'est pas un moins. En fait, faut pas le voir dans un côté moins parce que t'as pas lu les bouquins, machin. Du coup, tu vas rien comprendre. C'est plus Toutes les références auxquelles on va faire par rapport aux 7 bouquins donc, qui sont parus jusqu'à aujourd'hui.
Que t'as tous lu toi.
Que j'ai tous lu. Donc avec les deux premiers qui sont des recueils de nouvelles, mais qui sont des nouvelles fondatrices de ce qui va se passer par la suite dans les 5 suivants, qui sont une saga complète. Tu vas pas pouvoir comprendre les références à ça.
Mais comprendre... tu peux comprendre le jeu en regardant par exemple un résumé.
Tu peux comprendre les
enjeux. Il y a un résumé sur YouTube des deux premiers épisodes.
Ouais, c'est pas vraiment un résumé des deux premiers épisodes
ah hein, bon
qu'ils ont mis. C'est juste un dessin animé pour expliquer ce qu'est Geralt de Rive, le héros de la série, qui est un sorceleur donc.
Mais tu peux comprendre le jeu ?
Tu peux en fait le jeu est un standalone. Tu peux le comprendre vraiment parfaitement. Les enjeux sont présentés rapidement, ils sont clairs. Tu joues Geralt de Rive, qui est un sorceleur, une espèce de tueur de monstres, on va pour résumer, même si c'est pas ça du tout. Et il est à la recherche, il est sur les traces de son amour perdu hein, en quelque sorte, puisque quand on commence le premier The Witcher, Geralt est amnésique. Il ne se rappelle pas ce qui s'est passé auparavant, donc les romans. Et petit à petit, il va récupérer un peu justement de sa mémoire et se rappeler les personnes avec qui.
Le premier faisait suite au roman.
En fait, c'est
parce que les romans, c'est terminé, c'est pas en cours.
Il y en a un autre qui va paraître là. La traduction va paraître le 29 mai en France, mais c'est un.
En fait, le jeu a inventé la suite de l'histoire. Quoi.
Exactement. Ils ont fait. Et j'en parlais
c'est
avec.
Super cool ça.
J'en parlais avec Damien Monnier, qui est designer chez CD Projekt pendant l'événement organisé par Papayou, le Draw and Game. Mmh. On a eu l'occasion de discuter énormément avec lui hein, pendant 3 heures, et ça m'a rappelé moi que il y a eu le jeu Scarface. Qui est sorti il y a quelques années, ouais. Qui faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, il prend en partie à la fin de Scarface. Bah non, Pacino, en fait, il est pas mort.
Il revient. Il s'est pris 15 000 bastos dans
exactement.
Le buffet. Il tombait dans sa.
Non, en fait, il échappait en fait hein, au truc. C'était ça. Il réécrivait l'histoire et en fait, il essayait de reconquérir Miami dans ce jeu-là. Bah, c'est un peu la même chose, même si c'est pas exactement la même chose en fait, puisque à la fin des romans, on sait pas si Geralt est mort ou pas en fait. C'est ça le truc.
Et donc il se réveille
avec suivi. Hein, c'est dans la même chose, mais c'est un peu la même
ouais,
chose.
Ouais, c'est bon, c'est difficile à résumer en fait. Hein, tout, bon. Tout le truc. Bref, c'est un plus en fait. Un plus, mais inestimable d'avoir lu les romans.
Donc tu me recommandes d'y jouer, même si j'ai jamais touché au
bouquin
ni au premier
jeu. C'est juste que tu ne comprendras peut-être pas ton attachement à la magicienne sur les traces de qui il est, à savoir Yennefer. Mm. Tu ne comprendras peut-être pas son attachement à un des personnages. Qui va être jouable pendant le jeu, qui est Ciri. Nous, dans les romans, on la découvre petite fille, il l'adopte en quelque sorte, et tu vas peut-être pas comprendre exactement ce qu'il est lié, même si ça se traduit. Oui, Ciri. Un peu comme Ciri Drevet ou Ciri Lignac.
ou Ciri dans ton.
Ouais, ou
ton iPhone.
iPhone, absolument. Et donc, tu vas peut-être pas être aussi attaché que ça, mais c'est possible. Il y a énormément de choses à lire, énormément de dialogues qui vont.
Bon,
qui
alors,
vont
vas-y, qu'est-ce qui fait de ce jeu un jeu
ah, tu
incroyable
hein.
Voilà.
Ce qui fait de ce jeu un titre incroyable, c'est l'univers.
C'est le monde ouvert déjà.
C'est un multi. Monde ouvert puisqu'il y a plusieurs maps donc deux qui
sont absolument... avec des temps de chargement entre les
c'est un téléport quoi t'as juste un
mais
téléport
y a un temps de chargement
hein, oui entre les deux maps oui effectivement enfin les quatre maps principales on va dire
c'est plusieurs mondes ouverts connectés par des temps de chargement quoi
parce que c'est vraiment super grand comme si
les deux maps principales ouais. C'est gigantesque ouais. Mais alors vraiment gigantesque
et tu te fais chier quand tu te balades ou t'as toujours des trucs
non,
à
non mais
faire.
C'est vraiment de la merde non mais non je me fais pas chier
non mais regarde par exemple Assassin's Creed 3 oui. Ils avaient créé un monde ouvert incroyable avec beaucoup de nature comme dans Witcher j'imagine parce qu'il n'y a pas que des villes je me suis téléporté en permanence finalement il n'y avait aucun intérêt la chasse ça servait à rien c'était mal foutu
et là en fait
est-ce que tu t'amuses quand tu navigues est-ce que tu n'as pas envie d'utiliser les téléporteurs
il y a toujours quelque chose qui se passe où que tu ailles déjà il y a toujours des points d'intérêt
comme dans Red Dead Redemption souviens à l'époque il se passe toujours un truc quand
tu es en train de balader souvent c'était des répétitions en fait c'était des scènes
pour moi c'est cool quoi
le comparo qu'on peut faire pour The Witcher. D'accord, c'est un RPG, donc on pourrait dire qu'avec sa multiplicité, multitude de quêtes, il fait penser à un Skyrim.
Ouais.
Mais la façon dont il est mis en scène, la façon dont on approche ces quêtes, la façon dont elles sont écrites, ça fait plus penser à un jeu Rockstar en fait. Et même dans la volonté d'en faire quelque chose plus tourné action, plus cinématographique.
Mais donc on peut pas dire que comme dans un Skyrim ou des jeux de ce genre, t'as genre un fil conducteur, une histoire principale
si,
et
si,
des quêtes annexes.
Ah, si
ça marche comme ça quand même.
Mais c'est comme
tu te perds un petit peu dans les quêtes annexes.
Mais tu te perds parce que des fois elles pop juste à côté de toi quoi. Tu te dis tiens je vais aller en Canasson, je vais aller.
Et elles sont bien. Les quêtes annexes.
Alors les quêtes annexes, c'est
scénarisé et tout, vraiment.
C'est, bah, à chaque fois, c'est une surprise, quoi. Tu sais pas ce qui va, ce qu'on va te réserver.
Mais
tu
c'est pas des quêtes FedEx où tu dois aller.
Il y a pas de truc comme dans Dragon Age.
Livrer un colis à telle personne.
Bah voilà, il y a pas de collecte, quoi. C'est pas ah bah tiens, il va falloir que tu récupères des morceaux de crâne brillants comme dans Dragon Age Inquisition, qui sont éparpillés partout. Là, c'est vraiment des petits trucs à chaque fois qui ont un mini scénario, une petite trame. Ça pourrait être une nouvelle, hein, de écrite par
donc
l'auteur.
Donc c'est intéressant. Tu te sens impliqué, quoi, du coup.
Tu te sens impliqué parce que il n'y a pas d'évidence, en fait.
Tu peux le faire à tout moment si je termine le jeu.
Oui,
je
bien
peux,
sûr. Ouais. Tu peux revenir. Une fois que tu as fini le jeu, tu peux avoir accès à nouveau aux quêtes secondaires, aux chasses au trésor, au contrat de sorceleur qui consiste à aller affronter des monstres. Mais voilà, le truc, c'est t'es sorceleur, ton métier, c'est de tuer des strums qui inquiètent la population. Mais des fois, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est pour ça que chacune des quêtes est intéressante, c'est que c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais ah bah oui on va aller tuer ce monstre. Des fois bah tu te retrouves face à un monstre et tu vas lui parler, tu vas enquêter un petit peu, tu vas te rendre compte que bah il s'est passé peut-être d'autres choses.
Enfin qu'il est sympa.
Ouais non, mais que ou bah mais les monstres ne sont pas.
T'as le genre moi je ne tue aucun monstre si j'y joue.
Bah voilà mais tu les trolls par exemple sont des créatures intelligentes et tu n'es pas forcé d'y aller comme un bourrin. Tu peux aller demander bah alors qu'est-ce qui se passe exactement. Il va te dire bah non moi j'ai rien fait. Et tu vas découvrir un indice et tu vas voir que c'est un villageois.
C'est pas moi qui ai commencé.
Non, non, mais il peut y avoir des tables d'alternatives en fait. Et dans tes choix, justement, tu auras la décision parfois de, bah, d'y aller comme si t'étais un tueur de sang-froid ou bah, d'enquêter, d'approfondir un petit peu les choses. Je sais qu'il y a une quête par exemple qui est au tout début, dont j'avais déjà parlé dans mes impressions, où on doit retrouver quelqu'un qui a brûlé une forge. C'est un nain qui nous demande d'aller enquêter là-dessus. On trouve ce quelqu'un et là tu te rends compte que c'est juste un mec un peu simplet qui était bourré et qui te dit oh non mais arrête j'étais juste complètement pété je l'ai pas fait exprès tiens prends ce pot de vin pour oublier ce que j'ai fait et tout. Bah là tu choisis, tu te dis soit non bah j'ai un contrat je vais le respecter et là bah
je te coupe la tête et puis c'est tout.
Bah non, tu l'amènes justement à la justice, sauf que bah c'est assez expéditif hein, c'est un monde médiéval fantastique. Donc quand t'as brûlé une forge, c'est pas juste bon bah tu vas aller en prison 3 jours pour dégriser. Non, là ils le pendent direct à l'arbre le plus proche. Et là tu te dis j'ai peut-être un peu exagéré
ouais,
quoi.
Ouais, mais accepter un pot de vin, c'est pas bien non plus.
Et bah ouais, mais après tu te dis au moins le mec il recommencera peut-être plus quoi. Tu vois, il y a
peut-être
des chances.
Et puis tu peux te payer un truc.
Oui, puis tu peux te payer un truc parce que le but c'est quand même d'avoir de gagner de la thune, de gagner sa vie.
Est-ce que t'as comment dire, t'as une jauge de gentil et de méchant
ouais, non, est-ce que t'es toujours en incidence
pas... Non, c'est pas comme du tout comme un jeu BioWare où tu as justement une espèce de pragmatique ou gentil.
Parce que moi ces genres de choix ça me tue quand je joue à un jeu, j'ai toujours peur d'avoir fait le mauvais choix et tout.
Et ben là tu n'auras quasiment jamais de bon choix puisque tu ne sais pas ce que ça va donner à l'avance.
Est-ce que ça a un impact sur la réaction des autres villageois, enfin des autres
sur le monde de manière générale? Oui, il y a des quêtes qui vont en avoir puisque
c'est beau. Hein.
C'est alors bon, c'est autre point important outre l'écriture.
Attends, moi j'avais juste avant que tu passes ouais. à la réalisation, les combats. Ouais. Parce que là, on voyait les combats contre les monstres et tout. Ouais. Ils sont intéressants. C'est super complexe.
Coupé, il était en train de répondre à ma question. Hein, ouais, tu l'as même pas laissé.
Ah pardon, excuse-moi. Ouais.
Je sais même plus
ce que
c'était. C'était quoi la question? Pardon, j'ai pas entendu.
Je lui demandais si les choix qu'ils faisaient dans le jeu avaient un impact sur le comportement des villageois.
Ah, t'as pas fini alors. Vas-y, réponds.
Non, mais les choix et puis c'est surtout sur la quête principale. Il faut savoir aussi que les choix qui ont été opérés dans le 2. Alors là, pour le coup, j'ai joué qu'à la version PS4 pour l'instant, mais j'ai pu les simuler, parce que tu peux choisir au début, même si c'est pas clair, hein, on te demande si tu veux simuler les choix du 2. Il y a des choix fatidiques à certains moments du 2, où bah, tu choisis, t'as carrément une décision de vie ou de mort, ou d'alliance avec d'autres personnes, et bah, ça aura une importance capital pour le troisième épisode parce que bah, ça se peut que tu retrouves des personnes que tu avais croisées auparavant et qui vont peut-être venir t'aider ou au contraire te mettre des bâtons dans les roues. Donc il y a toujours quelque chose de très important qui sera tranché à un moment.
Mais donc tu dis ouais, ça tient compte des choix faits dans le 2. Est-ce qu'il y a un système qui a été créé pour que les gens qui ont joué au 2 sur PS3 ou 360 puissent importer
ils importent pas, non,
c'est juste tu t'as un rappel au début et tu
vas avoir
quoi.
Un petit dialogue en fait juste après le prologue où on va te demander ce que t'as fait dans le 2, voilà, savoir si tu t'es allié à telle ou telle personne, si t'as sauvé telle
ça,
ou telle personne.
C'est intelligent ça hein.
Par contre ouais. si t'as pas joué au 2 tu réponds au hasard quoi.
Non, t'as pas ce dialogue là parce que tu demandes, non, parce que t'as deux options au départ, c'est tu choisis soit le truc aléatoire. À ce moment-là, on pose même pas la question et c'est déjà choisi pour toi. Et si tu dis je veux choisir ce que moi j'avais choisi, je sais pas comment ils appellent cette option.
Simuler.
Et ben là, tu vas avoir ce dialogue et les gens vont te poser des questions et tu vas pouvoir leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas envie que ça soit aléatoire et que t'as envie de répondre aux questions mais que t'as pas joué aux deux, ils te donnent pas un petit résumé pour te demander, pour te laisser choisir en connaissance de cause.
Non.
C'est soit aléatoire, soit tu sais.
Ouais, exactement.
Soit tu sais ce que ça fait, soit tu sais pas.
Il faut savoir un minimum. Il faut s'être renseigné un minimum auparavant. Et donc voilà, il y a effectivement des choix très importants. Et puis voilà, puis pour finir sur les persos, ils sont tous super bien faits. Il y a des persos secondaires, moi, que j'ai découvert, qui étaient dans les romans aussi, que j'ai redécouvert grâce au jeu. Des relations qui sont bien tissées parce que ça prend le temps. Il n'y a pas que du combat ou des quêtes de bourrin ou d'enquête. Il y a aussi des moments où ça prend vraiment le temps de laisser ça m'a rappelé Red Dead encore une fois la fin de Red Dead vous voyez où John Marston prend un peu de temps pour être avec son fils, lui apprendre à être un bon fermier, etc. Bah là il y a des moments comme ça un peu plus tendres, un peu plus mélancoliques où on essaie de se rappeler du passé et c'est vraiment super bien foutu. Et pour revenir au combat maintenant, puisque tu me posais la question, Julo,
ils étaient un peu complexes dans le 2?
Ils étaient pas complexes, ils étaient un peu dans la toute première version ils étaient un peu pénibles parce que
dans le 2
dans le 2 parce que tu gagnais au tout début.
Ils m'ont saoulé, moi. J'avais fait le début de Witcher 2, les combats m'ont saoulé.
Bah au tout début t'es pas très bien armé en fait, tu gagnais les compétences au fur et à mesure et donc c'était un peu trop dur et il y avait des problèmes de caméra, il y avait pas de ciblage dans la toute première version et là bah ça a été en grande partie réglé. Alors la caméra est toujours un peu problématique, le ciblage face à certains boss, malheureusement tu verrouilles l'ennemi et des fois bah ça disparaît et tu sais pas pourquoi et tu te retrouves à plus savoir quoi faire, mais le reste du temps ça fait un peu penser à du Batman avec arme blanche, ils ont rajouté des trucs dans celui-ci, donc tu te bats à l'épée et suivant d'ailleurs le type d'ennemi, que ce soit une créature ou un être humain ou enfin une créature normale on va dire, pas surnaturelle, tu changes d'épée, c'est épée en acier pour les humains, les loups ou ce genre de choses, et épée en argent pour les créatures surnaturelles, et donc en fait ça fait c'est très dynamique. Encore une fois, t'as coup fort, coup faible, t'as une possibilité de juste parer, un contre qui marche plus sur avec les humains, quand vous avez un humain par exemple qui est protégé par un bouclier et qui a une grosse armure, vaut mieux y aller en contre, et deux types d'esquive. Il y a une petite esquive genre peinarde à même pas un mètre, et là du coup ça permet de passer sur le flanc immédiatement.
Ou alors la grosse roulade.
Ou alors la grosse roulade, où là c'est quand t'affrontes des gros boss. Il n'y a pas photo. Il vaut mieux s'en servir.
Est-ce que tu vas te retrouver à certains moments du jeu à pas te sentir assez puissant pour affronter tel ou tel monstre et devoir aller faire du level, grinder ton personnage?
Oui, parce que en fait c'est par
ça
zone.
Ça tu dois le faire, ça?
C'est par zone.
Putain,
en fait.
Putain, ça je déteste ça.
Par zone et par type de contrat, on t'indique si c'est adapté à ton niveau. Et des fois tu vas traverser un champ et tu vas avoir des bandits sur le côté, puis là tu vas dire je vais y aller, puis là tu vois qu'à côté de leur barre d'énergie il y a une tête de mort, et là tu dis ouh, ça veut dire ils sont 10 fois trop forts pour moi, donc
mais c'est pas normal, tu vois, le mec c'est un sorceleur et tout, les mecs c'est des bandits à la con.
Bah oui, mais après c'est une histoire de niveau.
Je sais, mais moi ce qui me donne vraiment envie dans Witcher c'est le voyage, l'univers.
Là t'es gâté cet univers là.
Si à un moment on dit non,
on parlait de la réalisation,
faut pas tuer 15 000 mecs là et ensuite tu peux revenir.
Ouais, non, la progression elle est souple, elle est assez assez coulée. Mais tu vois, on parlait de la réalisation de tout à l'heure, mais c'est l'univers justement, c'est peut-être le truc le plus fort du jeu, c'est qu'il est ultra vivant. Il n'y a pas un endroit où il ne se passe pas quelque chose.
Tu sais, moi, c'est un des trucs que je recherche le plus dans les jeux, enfin d'aventure en tout cas, c'est le voyage, quoi. C'est le côté découverte d'un univers.
Tu vas voyager, tu vas arriver dans un bled, il y aura toujours de la vie, de l'animation. Enfin, ils se sont quand même fait chier à recréer des fermes complètes, quoi.
Et puis les gens réagissent à ta présence.
Oui, les gens t'insultent.
Mais ça, c'est comme dans Fable.
Forcément, ils peuvent pas être sympas.
Et ben voilà, j'ai presque envie de dire The Witcher, c'est Fable. C'est la. Tu t'aurais dû parler dans le micro quand tu l'as dit. C'est ce que Fable n'a pas réussi à faire. J'ai l'impression que c'est ça.
Parce que quand t'arrives dans un village, si toi t'as fait du bien directement ou indirectement à ces gens-là,
oui,
ils vont bien t'accueillir.
Exactement.
Et si c'est pas
mais
le cas,
de manière
c'est
générale, on t'accueille très mal parce que tu es un sorceleur et que les sorceleurs ont mauvaise réputation.
Comme les journalistes.
Un peu ça. D'accord. C'est un peu ça.
Quoi qu'il arrive, toi t'es journaliste, tu joues un jeu, t'es sorceleur.
Gérald,
voilà,
le journaliste.
Gérald, on imagine que Gérald se baigne dans les Doritos.
Est-ce que tu peux upgrader tes armes ou aller forger des trucs?
Il y a du loot de ouf.
Ouais.
Contrairement aux deux où il y avait.
Ça sera marqué sur la jaquette du jeu. Il y a du loot de ouf.
Énormément d'armures, de pièces d'armure à trouver. Il y a trois types d'armure d'ailleurs, hein, légère, intermédiaire et lourde. Et donc épée comme armure, tu peux trouver vraiment des milliards de trucs. Il y a aussi surtout du matos que tu vas devoir chercher. C'est du matos de sorceleur, hein, des écoles de sorceleurs qui ont éparpillé des schémas un peu partout que tu vas faire forger. Les armures, les armes, tu les répares, tu peux les upgrader avec des runes. Enfin bon, au niveau du loot, c'est vraiment costaud, c'est très utile. On a envie d'avoir un meilleur matos pour pouvoir évoluer. C'est très très important, tout comme le fait de bien faire évoluer l'arbre de compétences en fonction de ses propres aspirations. L'arbre de compétences qui est plus réussi que dans le deuxième. Dans le deuxième, bah, tu prenais l'épée et puis bah, voilà.
Est-ce que t'as énormément de compétences
Ouais, t'as pas mal de petites compétences. C'est plus des bonus que des compétences, hein, cette fois, sauf pour la magie. Les signes de magie, les 5 signes de magie.
Les trucs qui te permettent de faire des kamehameha là.
De...
Non, parce que t'as les armes que t'as dans les mains et puis t'as les pouvoirs magiques que t'envoies, genre le rayon de flamme.
Alors, le rayon de flamme, c'est un signe d'igni, on va dire, de niveau 2, c'est quand t'as la compétence.
Tu vises automatiquement ça ou t'es obligé de viser comme dans un FPS, genre le mec
Bah, c'est automatique si t'as loqué ou s'il est en face de toi, de toute façon.
Si t'as loqué, c'est bon.
Ouais, aucun souci.
Et ça reste sticky sur le truc, quoi.
Ouais, absolument. Il crame et tout. Les 5 signes magiques, comme d'habitude, ils sont très très utiles et faut pas hésiter à s'en servir, tout comme les raccourcis vers la bouffe pour regagner de la vitalité en combat, ce qui est une nouveauté. Avant, il fallait sortir du combat, il fallait pas du tout être en combat pour pouvoir regagner l'énergie. Il y a énorme. De toute façon, enfin, c'est impossible pour moi de vous résumer tout ce qu'est le jeu.
Non, mais moi, j'ai
tout de suite
un dernier truc encore. Ouais. Enfin, avant que tu parles de la réalisation, parce qu'il faut parler du downgrade.
La réalisation,
à mon avis,
on l'a dit, c'est un jeu.
Non,
qui...
mais il y a toute une polémique sur le downgrade, donc je pense que tu vas t'exprimer dessus.
La polémique, elle a même pas.
Mais
lieu
juste
d'être.
un truc. Est-ce que l'histoire,
oui,
elle est géniale?
Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire.
Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, non?
Non, mais vraiment. C'est-à-dire que tu suis le truc, c'est passionnant et tout.
Oui, c'est passionnant.
T'as pas laissé sur ta fin.
Non. Mais non, mais là j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. On n'a pas eu la version PC encore, mais là j'ai envie.
C'est vrai qu'il y a 36 fins en plus, ça veut dire.
Oui, oui, il paraît qu'il y a 36 fins. Bah, j'en ai vu qu'une et demie pour l'instant, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'aller plus loin. Il paraît que j'ai rushé le jeu, donc ouais. Vous voyez, c'est.
ça c'est pas mal ça.
Ouais, ouais, c'est 70 heures quasiment de jeu. C'est... Bon, bref. Toujours est-il que ouais, j'en ai vu une, et c'est à mon avis en fonction de tous les choix qu'on a fait pendant le jeu, et il y en a énormément. Et le truc, ouais, c'est que bah, c'est passionnant de bout en bout, quoi. Ils ont réussi à faire avec les personnages, à créer un truc qui est assez unique, qui moi me fait vraiment penser au jeu de Rockstar. De toute façon, tout me fait penser à du Rockstar dans la façon dont ils ont communiqué, dont ils n'ont pas arrêté, hein, de communiquer sur le jeu, la générosité du jeu, le sérieux de l'écriture, la maturité de l'écriture. Enfin, vraiment, il n'y a pas un point où je me dis que CD Projekt, c'est pas vraiment inspiré du studio britannique.
Alors, qu'est-ce qui l'empêche d'aller de fantastique à culte, hein, selon notre notation de 4,5
à 5? C'est des petits détails, hein, qui m'ont gêné, l'inventaire qui est un peu fouillis.
C'est que des trucs comme ça,
ouais, des manques de polish.
Ouais, je sais pas, c'est pas de polish, mais de... Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a des trucs. Les courses de chevaux qui sont... Enfin, moi, je me souviens combien de fois j'ai fait des courses de chevaux où t'as ta jauge d'endurance de cheval qui baisse, qui est à zéro, et puis le mec qui était derrière toi, bah, il rentre dedans, mais il ralentit aussi. Alors qu'il doit doubler normalement, enfin je sais pas, mais non, il ralentit aussi, puis du coup, toujours devant, et du coup, dit ça sert pas à grand chose. Il y a des petits trucs de caméra, ouais, des petits défauts de caméra qui sont un peu embêtants, enfin. C'est plus, ouais, c'est plus sur des détails que j'ai pas été déçu, faut pas charrier non plus, mais où je me dis que je suis pas certain qu'il soit considéré comme culte, qu'on se dise encore dans 5 ans ah bah tiens, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué, mais j'en suis pas sûr, mais c'est pas une vérité, quoi.
En même temps, c'est toujours très difficile.
Là pour le coup, c'était difficile de savoir. Donc voilà, je pense pas avoir été injuste. Maintenant, peut-être que dans 5 ans, on en reparlera comme de mon boulet, tu vois, en me disant
ça va 4,5, c'est enfin,
mais ouais, bon, ça va. Mais ça se trouve, enfin tu vois, ça se trouve la version PC va arriver.
Comme si tu avais
et là, je vais te regarder, je vais faire Julo, j'ai fait
alors
quoi.
Juste un mot sur le downgrade. alors
Bah, écoute, sur PS4, on y a joué que sur PS4. J'ai vu la version PC tournée un peu à la soirée de lancement à Paris et sur IGN, où ils ont eu l'occasion, sur le site américain d'IGN, de montrer énormément du jeu. Bah, Downgrade, moi je veux bien des jeux downgradés comme ça, quoi.
C'est... Ouais, mais il y en a eu un ou pas?
Il n'y a pas eu un downgrade par rapport à ce qu'ils avaient montré à l'E3
Bah ouais, si, forcément.
Mais enfin, c'est violent ou...
Bah,
parce que c'était juste splendide ce qu'on avait vu.
Ah non, ce qu'on a vu à l'E3 2014, non. Ce qu'on a vu en première vidéo en 2013, oui. Voilà. Ça, c'est...
Là, il y a une très grosse différence. Par contre, c'est exactement ce qu'on a vu en 2014.
Bah écoute, maintenant j'attends d'avoir la version PC vraiment devant les yeux quand on va la voir à la rédac et tout. Mais alors, franchement, je vois pas énormément de différence avec ce qui, moi, m'a été montré pendant le 3 2014. Peut-être sur les couleurs, le choix des couleurs, mais sur le reste, bah, la profondeur de champ de ce que j'ai vu sur IGN, une fois de plus, elle est respectable. Et puis maintenant, en se calant sur la version PS4, bah, putain, ça va quoi. C'est quand même une sacrée tarte dans la gueule, le jeu. Hein. Il y a quelques effets de lumière qui sont moins appuyés. La flotte est moins bien faite, je pense, que sur PC. Il y a moins d'effets de particules. Mais alors, franchement, bon,
enfin,
c'est
de toute
un
façon,
régal,
ce qu'il faut retenir, c'est
et
que
les visages.
Moi, je t'ai vu jouer sur PS4, c'est beau, quoi. Voilà.
Oui,
c'est super beau.
Mais c'est les visages qui, en plus,
c'est moins beau que ce qu'on avait pu voir.
Romain.
En soi, je pense que présenter à l'E3 ou dans n'importe quel salon ou dans n'importe quelle vidéo la version PC, c'est pas un problème, parce que clairement ils veulent montrer leur jeu sous son meilleur angle possible, ça c'est logique, mais ils devraient le préciser. Je pense que, parce que effectivement moi je t'ai vu jouer à la version PS4 et c'est très beau.
Ouais.
J'ai pas regardé, j'ai fait cacher ça je peux pas le voir, c'est une agression visuelle, tu vois. Non, c'est très beau, mais c'est vrai que quand tu t'es exposé à des screenshots, t'es exposé à des vidéos pendant des mois et des mois, ton cerveau il s'attend à être mis face à quelque chose. Et après, quand tu arrives chez toi, même si le jeu est très beau, bah tu te rends compte quand même que c'est un peu moins,
c'est ce que
faisait
beaucoup aussi Ubisoft, hein. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait dans le sujet Assassin. Cette année, ils ont pas bullshité. Ils ont montré un truc qui paraît normal.
Tout le monde n'a pas accès à une configuration comme Sir Poufy, qui est prêt à claquer 25 000 $ sur son PC. Et donc, faut que les gens aient quand même une vision réaliste du produit auquel ils vont être mis face. Donc, je pense que présenter un truc PC, c'est pas grave. Faudrait juste le préciser.
Oui, bon, après, de toute façon, là où il y a pas de bullshit, autres, c'est que le jeu est superbe, quoi. Tout bêtement. C'est, bon. À partir de ce moment-là, je pense que t'as rien à expliquer. Si c'est beau, si
c'est bon duel.
incroyablement vivant. Enfin, pour moi, c'est déjà une prouesse, ce jeu. Et je vous dis, les visages, c'est un truc de ouf.
Ouais,
ils ont fait
ça,
un truc avec les visages. Et il me l'a expliqué, Damien Monnier.
Il y a encore un petit uncanny valley, je trouve.
Ah bah non, justement. Parce que ils ont réussi à faire un truc. Ils se sont attardés sur les yeux. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez quand vous y jouerez.
Hyper important.
C'est que pendant les dialogues, vous verrez que les yeux ne sont pas fixes comme des poissons morts qu'on peut avoir, notamment,
comme Quantique le fait aussi, d'ailleurs.
Voilà, et bah, les yeux continuent à bouger. Et il y a le petit frétiment quand on se regarde là dans les yeux. Les yeux. La pupille, elle n'arrête pas de
non,
bouger.
Non, pas moi.
Ouais, mais toi, t'es différent. Ils sont beaux, tes yeux.
Toi, t'es un Terminator.
Et donc, il y a quelques personnages comme ça qui, en plus, ont des expressions du visage qui ont été extrêmement soignées. Avec des moi, c'est les joues qui se gonflent par moment. En même temps que Siri parle, ça m'a juste bluffé. Et puis le design, quoi. Le design. Je vais poser la question maintenant aux personnes qui joueront. Moi, je suis Team Yennefer, personnellement. J'espère que vous aussi, vous
êtes.
Parce que
tu es
Triss,
quoi?
Team Yennefer. Yennefer, c'est la magicienne.
Celle avec les cheveux blancs.
Les cheveux noirs. Celle avec les cheveux blancs,
Geralt,
c'est Ciri.
Avec les cheveux blancs.
Non, Ciri aussi a les cheveux blancs. Ciri, c'est la jeunette. Mais moi, je sais que Triss, par exemple, fait beaucoup d'effets en général aux hommes. C'est la rouquine. C'était elle qu'on avait eue dans le 1 et le 2, qui a été le premier personnage de jeu vidéo à avoir été quand même en couve de Playboy. Rappelons-le. Même si c'était en Pologne. Mais moi, je suis plutôt pour celle qui est brune. Et vous verrez. Elles sont irrésistibles de manière générale, les magiciennes, dans le jeu. Donc, bref.
Ciri, il paraît que t'es dans The Witcher 3.
Tu sais que j'ai failli le faire, ça aussi. Je me
c'est
suis
vrai, alors.
Ah non, il m'a dit.
Ciri, il paraît que les dents de 8h03.
Ah ouais, non, ça marche pas.
Ça marche pas. Bon, c'est pas grave.
Bon, bref, quoi qu'il en soit, si vous avez lu les romans, que vous avez joué aux autres jeux avant, c'est bien. Sinon, vous avez aucune inquiétude à avoir. C'est un jeu qui déboîte. Et
à
sur lequel vous allez passer.
La compréhension de Ciri, c'est toujours formidable.
Sur lequel vous allez avoir des heures et des heures et des heures et des heures de jeu. Prévu sans aucun problème. Et voilà, il n'y a rien à ajouter, je crois.
Allez.
Allez quoi ?
On achète ?
Bah oui, oui, alors là, vous pouvez acheter, alors genre les yeux fermés, et sur n'importe quelle plateforme, il n'y a vraiment aucun problème, même si, évidemment, pour le cœur, je vous conseille le PC. Voilà.
C'est meilleur pour le cœur, d'accord.
Ouais, mmh. Bah c'est mieux pour le cœur, oui, effectivement. Il y a des oméga 3 à l'intérieur. Allez, on va passer à la suite maintenant que je vous ai fait une longue tirade sur The Witcher. On va passer, messieurs, à vos hors-jeu. Et on va commencer avec toi, Julo.
Ah, d'accord.
Bah ouais.
Bah écoute, ça va être très rapide parce qu'il s'agit juste d'un trailer.
Ouais.
Et c'est une série dont je vous ai parlé, donc ça me permet d'en parler une deuxième fois parce que vraiment c'est une super série et je vous invite à tous la regarder. Il s'agit de True Detective. Et donc je rappelle le principe, une enquête.
Ce râle de rabbi.
Alors, et ce qui est formidable, moi je trouve, c'est comme dans American Horror Story, notamment, c'est qu'une saison.
Dans le podcast en 341,
ouais, c'est ça. Ouais. Quoi, une saison égale une histoire, un scénario différent et des personnages complètement différents. Etc. Mmh. Et donc là on a découvert en fait tous les acteurs de cette parce qu'il faut rappeler quand même c'est Woody Harrelson et Matthew McConaughey qui jouent dans la première saison et qui sont extraordinaires. Dans la saison 2 on aura Colin Farrell, Vince Vaughn.
Vaughn.
Taylor Kitsch et Kelly Reilly.
Kelly Reilly, c'est ce que je disais la semaine dernière, mais en fait c'est Rachel McAdams qui sera principale. Kelly Reilly est liée, hein.
D'accord. On l'a vu, mais moi j'adore Kelly Reilly.
Ben tout le monde adore Kelly Reilly. D'accord. Qui ne peut pas aimer Kelly Reilly.
Bref, elle est dedans en tout cas.
Un des persos principaux.
Mais dans tous les cas, voilà, donc c'est juste une bande-annonce. Hein. Mm. Je vous invite juste à la regarder. Si vous avez vu la saison 1, vous êtes forcément aussi à cran et vous avez trop envie de la voir. Et sinon, j'invite tout le monde à regarder au moins la première saison en attendant la sortie du premier épisode donc de la saison 2 qui arrive le 21 juin pour la fête de la
Ligue. C'est déjà le 21 juin.
H plus 24 pour les abonnés OCS.
Ah oui, OCS qui fait des bons.
Il y a des gens qui sont abonnés à OCS ?
Je sais pas, ouais. Je pense que
c'est un mystère.
Ça doit exister.
Ouais. Ouais.
T'es abonné, toi ?
Ouais, mais Game of Thrones direct
d'accord.
En simultané.
Ah, c'est pas sur Canal, ça ?
Non, c'est sur. Ah, c'est sur Canal aussi, oui, c'est vrai, c'est les deux.
Bon, bah voilà.
Ouais.
Pour les gens qui n'ont pas Canal, il y a OCS.
Ouais, voilà, exactement. Bon, c'est vachement bien.
Ok, bon, ça va. C'était mon
jeu. Merci,
je t'en prie.
Romain.
Oui.
Toi, c'est une BD. Un comics.
Et c'est un comics, et pour une fois, je vais faire un peu comme Julo, c'est un comics vieux de plusieurs années qui m'intriguait depuis pas mal de temps parce que je trouvais le pitch assez original, et c'est Superman Red Son. Mm-hmm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Superman Red Son raconte une histoire alternative dans laquelle au lieu d'atterrir chez les Kent aux États dans une ferme américaine,
chez les Russes,
Superman atterrit en Ukraine.
Je viens de me rappeler de ça, mais oui,
putain, c'est génial.
Superman atterrit en Ukraine.
Je connaissais pas du tout ce truc.
Et donc il grandit dans ce monde
dans
ce monde communiste, etc. Bon, quand la BD commence, il est déjà adulte, hein, donc tu vois pas toute son éducation, etc. Mais évidemment, Staline en fait un outil de propagande parce que c'est le super soviétique élevé dans le bon esprit et dans la bonne
c'est un bon camarade,
vision
quoi.
Des choses, voilà, c'est le camarade Superman. Et en fait
il s'appelle comment? Il s'appelle Superman ou Super Tovorich du coup?
Il s'appelle Superman parce que c'est une version française que j'ai lue, donc
il s'appelle Superman.
D'ailleurs il n'a pas de si je ne m'abuse, il n'a pas de nom civil. C'est juste Superman tout le temps.
D'accord, ils auraient pu l'appeler Igor ou Vladimir.
Et donc au bout de quelques pages, Staline meurt et c'est Superman qui prend sa succession. Et ils expliquent l'impact que le camarade Superman a sur le monde. Je vais pas spoiler, hein, mais ça change totalement l'univers.
Ça s'appelle comment, t'as dit, alors ?
Superman Red Son, fils rouge en gros. Et tu vois aussi Batman, tu vois Wonder Woman. Mais Batman encore, c'est un Batman qui est totalement différent. Que celui qu'on connaît. Il y a un Green Lantern aussi qui est différent, qui a un tout petit rôle. Il y a
c'est un Batman avec ses parents
Wonder
ou...
Woman.
Il a toujours ses parents ou...
Non, il n'a pas ses parents non plus. C'est différent. Et tu as Lex Luthor, mais Lex Luthor, lui, est bien américain. Et il a toujours une dent contre Superman. Enfin, c'est une vision totalement différente de l'univers DC. Mm. J'ai trouvé ça super intéressant. Le seul petit truc qui manque pour moi, c'est que ça... on voit pas assez le côté communiste de Superman. Enfin, j'aurais bien aimé voir... on sait qu'il l'est. Mmh. On sait que c'est sa façon de voir les choses.
T'aurais voulu qu'il ait un couteau entre les dents, quoi.
Non, pas forcément, mais que on voit comment ça a été mis en place, comment il a été éduqué de cette manière-là, etc. C'est juste dommage à ce point-là. Mais ce qui est marrant, c'est que tout en étant communiste et défenseur dans le monde de cette façon de penser... il reste quand même Superman. ça reste le mec quand même qui, au fond du fond, est pas mauvais. Tu vois, c'est parce que Superman,
pourquoi
c'est
les communistes
le mec
sont mauvais.
Superman,
salaud.
C'est le bah, il faut parler ça, faut parler de ça aux millions de victimes qu'ils ont faites à travers le monde. Mais
enfin, Staline.
Bah Mao aussi si tu veux aller
partout. Oui, c'est vrai, tu peux aller aussi. À Cuba aussi.
Ah, oui, c'est vrai. Enfin bref.
Oh, oui,
ou même ce, bah,
en
plus
fait, tu peux aller, tu peux aller partout, il y a eu du communisme.
Ce cher Kim Jong-il.
Ah oui.
Et donc ça reste un mec qui a au fond pas bah pas un mauvais fond et c'est original. C'est bon. Franchement c'est à lire. C'est si vous avez cette image de Superman très américaine, bah là c'est totalement différent et c'est assez intéressant. Et rien que pour le visuel, Superman avec à la place du S, le marteau et la faucille, enfin je trouve le design super intéressant.
Mais écoutez, voilà. Nous conseillerons donc la lecture de cette BD à Vladimir.
Parce que tous les fans de comics doivent l'avoir lu, ils vont me faire old. Ils l'ont
bah
lu.
Bah oui, mais t'as le droit de faire old.
Attends, vieux, c'est ouais. Vieux de, ça fait combien de temps que c'est sorti ça?
Je sais pas, ça doit être de 2005, 2006. Ouais, j'ai même pas fait gaffe à l'année. Hein.
Peu importe. Tu sais que moi j'ai vu le premier film The Avengers ce week-end avec mon fils.
Ah cool.
Voilà. Comme ça les gens pourront se foutre de moi.
D'accord, il est pas interdit.
C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non,
pas, non, il n'a pas de limitation d'âge. Avengers.
Tu sais, avec le cinéma, il voulait juste le faire culpabiliser une seconde, mais bon, j'ai pas réussi.
Non, il a surkiffé, il a adoré Hulk en fait.
Ouais,
parce que il est drôle quoi. Tu sais, le moment où il arrive avec, à côté de Thor.
Non, spoil là, pas.
Et qui fait. Boum, pas. Avec son poing, et t'as Thor qui dégage. Il était mort de rire.
Bon. Mais
Hulk est génial.
Ouais. Bah, évidemment, Hulk c'est le meilleur. Rami, on va passer à un film avec toi.
Moi j'ai vu Fury de David Ayer qui avait fait au début j'en ai.
C'est vieux ça.
Putain, ouais, c'est vieux,
arrêtez de sortir des trucs. C'est si vieux, c'est grave vieux. Quand c'est
mais
moi
non,
c'est
pas grave.
Et j'entendais rien du film parce que c'était le réalisateur de The Sabotage de Arnold Schwarzenegger qui était complètement à la ramasse. Et du coup bah là on découvre quatre militaires qui gèrent leur tank qui s'appelle Fury et ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait t'as un des mecs dans le tank qui meurt et du coup il est remplacé par une petite recrue qui découvre l'horreur de la guerre et qu'on lui dit bah Brad Pitt lui dit mec j'ai vécu la guerre enfin c'est tu vas te tuer faut que tu tues quoi que ce soit des gosses ou des mecs qui ont des enfants ou faut vraiment que tu butes et c'est vraiment une histoire qui suit mais enfin c'est vraiment excellent j'ai même lâché une petite larme à la fin. Et c'est...
Ça m'étonne pas.
Ouais.
T'es un grand sensible,
ouais. Un grand fragile.
Et c'est vraiment Brad Pitt dans un rôle que.
Mais franchement, tu sais que moi, je crois que c'est mon acteur préféré, Brad Pitt.
Je trouve vraiment excellent. Vrai,
avec Leonardo DiCaprio.
Ah ouais.
Ah, moi, j'aime bien les blonds.
Ouais. T'es un peu midinette, toi.
Ouais.
Mais donc.
David Ayer, c'est celui qui réalise Suicide Squad en plus, non? C'est le même. Il est bien question du même individu.
Oui.
Ah ouais. Ah ouais, Suicide Squad, le truc avec Jared Leto.
Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie.
Ouais. Ça s'appelle comment? J'ai pas.
Fury.
Et Cara Delving, surtout Cara.
Ah, je suis plus team Margot Robbie que.
Ah ouais, mais j'aime bien Cara Delving. Elle a une tronche rigolote. Je sais pas. C'est voilà. Bon bref,
parce qu'on a complètement piraté le sujet de Rami.
Ouais, c'est vrai.
Non mais je vous le conseille vraiment. Enfin, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale et.
Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, ouais, moi je kiffe.
Enfin, pas sous
si vous êtes du genre à collectionner les plus beaux Panzers, l'édition Del Prado, bah voilà, ça vous fera plaisir.
Non, mais tu vois vraiment l'horreur de ce qui s'est passé aussi bien psychologiquement qu'au niveau de tout ce qu'ils ont pu traverser, les horreurs, etc. Et c'est vraiment quatre personnages auxquels on s'identifie, surtout Brad Pitt qui est vraiment le chef un peu de toute cette petite.
J'ai vu Chia LaBeouf aussi, non, tout à l'heure, avec une moustache.
Ouais, c'est. Je suis pas fan de cet acteur, je déteste même Shia LaBeouf.
En fait, toi, j'aime pas du tout, moi non plus.
Et franchement, si, là,
j'aimais bien la série qu'il faisait quand il était gamin.
Les Stevens.
T'as envie de mettre des claques.
T'es complètement con, mais c'est très drôle.
Et du coup, là je l'ai aimé, c'est bizarre. Hein,
mais il est très bien, arrêtez. Il a un nom bizarre, mais il est très bien.
Non, c'est LaBeouf. Hein. Enfin, en fait, je sais plus, c'est un conflit. J'avais lu, c'est un conflit familial. Et juste pour ça, ils ont inversé deux lettres, mais à la base, c'était bien LaBeouf, son nom.
Moi, je l'ai renié depuis Indiana Jones 4. J'ai fait, c'est plus possible, faut plus que je te vois.
Bon.
Poufy voleur, il est 2h moins 5.
Et oui, alors, Poufy, tu voulais l'heure, c'est parce qu'il va falloir qu'on enchaîne et on va passer immédiatement au. Point concours. Et oui, un petit jeu parce qu'il y a toujours le même concours.
Oui, bah écoute, pas de nouveau concours si ce n'est.
Ah si, il va y avoir un nouveau concours.
Voilà, non, mais alors attends. Donc le concours permanent de jeux vidéo, comme d'habitude, qui vous permet de gagner des abonnements premium annuels chaque semaine en répondant à de petites questions auxquelles il est très facile de répondre lorsqu'on a suivi cette excellente chronique de Joe Hume sur Gameblog. Vraiment très drôle, on vous le recommande, c'est deux fois par semaine. Et c'est très sympa et ça vous permet donc de gagner des abonnements annuels sur Gameloft Premium.
Et là,
petite
tu vas prendre
nouveauté,
le bas du truc.
Voilà.
On va essayer de vous bien le montrer à la caméra.
On va
vous
le montrer à la caméra. Il y a Plumeau qui est pas égoïste. Hein. Il aurait pu le garder pour lui.
Et effectivement.
Et il va. Tiens, on va même le montrer là.
Bah, tiens, Rami, vas-y, Rami. Limite, si tu veux le prendre, même à deux mains.
Vas-y,
pose
ton micro.
Plus près. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir le montrer bien comme il faut. Ah
pour parce qu'en fait, c'est pas pour tout de suite, Rami.
Donc,
en fait, j'avais eu la chance d'avoir un poster qui est très rare de The Witcher 3.
Et il est magnifique.
Et quand nous y sommes allés avec Poufy à Varsovie, là, chez CD Projekt, pour faire la preview de The Witcher 3, je me suis dit, tiens, si je le faisais signer et qu'on le faisait gagner à des lectrices et des lecteurs de Gameblog. Donc, voilà, on va vous faire gagner ce.
Il est dédicacé.
Ce poster qui a été super dédicacé, qui est en train de se faire martyriser par Rami, qui est en train de le tordre là, complètement en bas.
Et Rami vous fera une trace de rouge à lèvres.
Voilà,
derrière.
Et Rami vous fera une trace de rouge à lèvres. Mais bref,
bon, bref, on va trouver un moyen de vous faire gagner ça.
Une partie de l'équipe de CD Projekt. Ça a une valeur maintenant de environ, je sais pas combien sur eBay.
Il est dédicacé partout.
Et il est très très dédicacé notamment par le département Locations de CD Projekt. Ils étaient en train de bosser quand ils l'ont fait, on les a un peu dérangés, mais ça valait le coup. Voilà.
Et voilà. Bon, on va organiser ça cette semaine. Ouais. Enfin, la semaine qui
on
vient.
On vous dira
comment.
Oui, bah,
cette
fait.
Semaine pour vous. Très bien.
Moi j'aimerais bien le faire, mais en faisant une question un peu ouf, mais personne comprendra ma vanne. C'est quel est le point commun entre The Witcher.
La couleur du cheval blanc de Geralt.
Entre The Witcher et Dick Rivers, et je vous laisse réfléchir là-dessus. Il y a un point commun entre The Witcher et Dick Rivers. Je sais, ça va être compliqué, mais ça va nécessiter un peu de traduction de votre part. Mais normalement, c'est facile. Je vous le donnerai après. Ne réfléchissez pas, les mecs, vous ne trouverez jamais. Hein, si vous
d'accord.
Avez, voilà. Bref, maintenant qu'on en est arrivé à ça...
Il est temps de conclure avec...
Oui, il est temps de conclure. Avec le quiz du podcast. Et cette semaine, messieurs... Comme on a découvert Assassin's Creed Syndicate à Londres, je me suis dit, on va faire un spécial. Pas du tout sur Londres, sur les villes réelles dans les jeux vidéo.
Ok.
Alors vous avez intérêt à être très affûté.
Ok.
Attention, vous connaissez les règles. Pseudo d'abord, ensuite réponse.
Ok.
Question numéro 1. Les alentours de quelle tristement célèbre ville visite-t-on dans la série de FPS ?
Romain.
Ouais.
Tchernobyl.
Putain, j'allais le dire.
Bah ouais, exactement. C'est Tchernobyl, c'est des Stalkers.
Pripyat.
Exactement. Une petite bonne réponse pour Romain. Question numéro 2. Dans Max Payne 3, pour quelle ville brésilienne ?
Romain. Rio.
Mauvaise réponse, on va dire.
Oui, Sao Paulo.
Exactement, Max quitte,
putain, je l'ai fait,
quitte New York pour aller à Sao Paulo et devenir gros et Barbie.
Génial, Max Payne.
Ouais, excellent.
Extraordinaire. Question numéro 3. Dans la saga Grand Theft Auto, là je vous regarde tous, vous êtes prêts, vous avez les mains sur les buzzers. À quelle ville fait référence Vice
City?
Julo.
Oh, j'attendais, j'étais sûr que c'était ça. Ouais, Miami.
Exactement, un point pour tout le monde, c'est incroyable. Vous vous rattrapez par rapport à la semaine dernière, vous étiez nul. Question numéro 4. Comment s'appelle la capitale française dans Remember Me ?
Julo.
Oui.
Néo Paris.
Et oui, Julo, bravo. Bravo, bravo. Tu enchaînes là, ça y est. Tu me rappelles un peu la Juve en Champions League. On finit avec la dernière question. Dans quelle ville de la Terre se déroule la dernière bataille de Mass Effect 3 ?
Oh. Ah putain.
Je vais pouvoir lancer une petite musique.
On dirait que j'ai gagné, hein.
Mass Effect 3.
Pas sûr. Quelqu'un va bien trouver là parmi
vous. Allez au pif, Rami.
Rami, oui.
New York.
Et.
Julo.
Oui.
San Francisco.
Et. Non, Romain, tu veux tenter ta chance quand même ?
Romain.
Oui. Ah, tu le fais bien.
Je vais dire.
Pourtant, je l'ai fait.
Tu vas dire.
Osaka.
Et non, vous savez quoi ? C'était Londres, la ville d'Assassin's Creed Syndicate. C'était la question piège, vous êtes vraiment con. Alors, merci en tout cas, même si vous êtes stupide, d'avoir participé à ce podcast. Merci Rami.
Qu'il est
merci,
bon d'être
merci,
con.
Merci. Julo, merci Romain.
Je t'en prie.
Comme d'habitude, merci n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dans les forums, si on a dit des conneries, si on a dit des bonnes choses. Et n'hésitez pas non plus à aller voir tous les tests et toutes les news que nous avons développées à l'intérieur de ce podcast. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast dédié à l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.